Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour, 31e dans notre série sur l'Église, s'intitule « Comment établir une assemblée chez vous ?» Dans notre série d'études sur l'Église, nous avons appris beaucoup au sujet de l'Église décrite dans la Bible. Nous avons vu son fondateur, ainsi que le lieu et la date de son établissement. Nous avons noté les noms par lesquels l'Église et ses membres sont désignés. Nous avons appris comment l'on devient membre de cette Église, par la foi en Christ, la repentance, la confession de foi et l'immersion au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Nous avons vu la forme d'organisation de l'Église du Seigneur, avec Jésus lui-même comme son seul chef et un groupe d'anciens qui remplissent des critères que la Bible énumère pour diriger chaque assemblée autonome. Nous avons étudié les autres rôles de leadership dans l'Église, ainsi que les trois aspects de son travail, qui sont l'évangélisation, l'édification de ceux qui sont sauvés et la bienfaisance. Le Nouveau Testament révèle aussi de quelle manière l'Église devait financer ses activités. Nous avons vu sa façon d'adorer Dieu par des prières, des chants, des offrandes, le repas du Seigneur et l'écoute de la parole de Dieu. Tous ces éléments devraient permettre à quiconque d'identifier, parmi tous les groupements religieux de nos jours, l'Église que Jésus lui-même a bâtie. Faites la comparaison des églises que vous connaissez et l'Église dont vous lisez dans la Bible. N'acceptez pas aveuglément ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Jésus dit que si un aveugle suit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, verset 14. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » L'apôtre Jean donne cet avertissement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Et Luc, l'auteur du livre des Actes, félicite les Juifs de Bérée en ces termes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Ne restez pas là où vous êtes si l'on ne veut pas suivre le modèle biblique pour l'Église. Mais que faire si vous avez examiné les Églises dans votre localité et qu'aucune d'elles ne répond à ce que vous avez vu dans la Bible concernant l'Église? Vous connaissez quand même que l'Église est forcément composée d'hommes et de femmes faillibles ou pécheurs, comme vous-même. Dans la vie de chaque chrétien, on trouvera des défauts. La vie chrétienne est un processus, une affaire de croissance spirituelle. Quand nous recommandons d'examiner les Églises, nous parlons surtout de ce qui concerne leurs enseignements et leurs pratiques, et non pas au cas d'hypocrisie ou de faiblesse chez certaines personnes dans une assemblée. Mais encore, supposez que vous vous trouvez là où il n'y a pas d'église qui cherche à se conformer au modèle qui est dans le Nouveau Testament. Pouvez-vous commencer vous-même une assemblée? Oui, vous pouvez le faire. Et voici quelques suggestions quant à la manière de procéder. Premièrement, si vous ne l'avez pas encore fait, obéissez à l'Évangile. Dans la foi et la pénitence, faites-vous baptiser, c'est-à-dire immerger dans l'eau, pour le pardon de vos péchés. Ce n'est que lorsque vous recevez le pardon de ces péchés qui vous séparent de Dieu que vous êtes réellement sauvés. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez membre de la véritable Église. Acte 2, verset 47 dit en effet, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Si vous obéissez au même évangile aujourd'hui que celui auquel ces gens du premier siècle obéissaient, Dieu vous sauvera de vos péchés et il vous ajoutera à la même Église que ces gens-là. Il n'ajoute personne à une organisation créée par les hommes, mais à son Église. Deuxièmement, prenez le Nouveau Testament comme seul guide en tout ce que vous faites. Votre salut en dépend. 2 Jean 8 et 9 dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez vu faire dans des dénominations que vous connaissez. Ne vous basez ni sur les traditions humaines, ni sur vos sentiments et ce qui vous semble juste. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Si vous vous réunissez avec d'autres personnes pour former une nouvelle assemblée, il faut qu'ils épousent ce même principe. Qu'ils acceptent le Nouveau Testament comme autorité qui permettra de régler toutes les questions. Que tous soient d'accord qu'il faut parler là où la Bible parle et se taire là où la Bible se tait. Troisièmement, commencez à adorer de la même manière que les premiers chrétiens. Retrouvez-vous chaque dimanche pour prendre le repas du Seigneur. Chantez à Dieu de tout cœur et sans ajouter des instruments de musique, la danse ou d'autres éléments que le Nouveau Testament n'autorise pas. Donnez librement et libéralement de vos moyens pour les besoins de l'œuvre de Dieu. Consacrez du temps à la lecture de la Bible et à la prédication ou enseignement de la parole. Priez dans l'ordre et la bienséance et que tout le culte soit conduit par des hommes. Les femmes, en effet, ne doivent pas, selon la Bible, conduire les hommes dans l'adoration. Soyez fidèles et réguliers dans l'adoration comme les premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. N'oubliez pas l'exhortation en Hébreux 10, verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Pour ce qui est du lieu d'adoration, sachez que les sortes de lieux de culte auxquels les hommes s'attendent ne sont pas exigés pour constituer une église biblique. C'est une question pratique et non pas une question de vérité. Le lieu où on adore peut dépendre de plusieurs facteurs. Le nombre de personnes qui doivent s'assembler, l'argent dont on dispose, la liberté de culte qui permet de se réunir ouvertement et la bonne gérance. La Bible ne dit pas qu'il faut avoir telle ou telle sorte d'édifice. Il semble qu'au premier siècle, des églises se réunissaient très souvent dans des maisons privées. Romains 16, versets 5 et 23, 1 Corinthiens 16, verset 19, Philémon, verset 2. C'est souvent une question de temps. On commence dans le salon ou dans la cour d'un membre. Quand l'espace ne suffit pas pour contenir les gens, on cherche à louer une salle. Ou bien si le climat et d'autres facteurs le permettent, on construit un hangar, un abri très simple. Plus tard, en mettant de côté une part des fonds contribués chaque dimanche, on peut disposer d'argent pour acheter un terrain et éventuellement construire un lieu plus permanent. Quelle que soit la solution que l'on trouve, il ne faut jamais oublier que ce qu'on fait quand on vient ensemble est infiniment plus important que l'endroit où l'on se réunit. Il faut que l'on fasse tout selon la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut évangéliser. N'oubliez pas que l'œuvre de l'Église n'est pas simplement de se réunir pour adorer. Elle a une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle de Christ à tout être humain. Ce travail appartient à tout chrétien. Ne pensez donc pas qu'il faut avoir un prédicateur ou pasteur professionnel pour être une église légitime et répandre l'évangile. Non. En Actes 8, verset 2, nous voyons que tous les chrétiens à Jérusalem, excepté les apôtres, ont été dispersés par une grande persécution. Les chrétiens qui n'avaient pas été dirigeants, c'est-à-dire dans ce cas ceux qui n'étaient pas des apôtres, n'ont pas attendu la présence d'hommes plus qualifiés pour évangéliser. Selon Actes 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quand Dieu créa le monde, il mit en place certaines lois naturelles, telles que la loi de la reproduction. Nous lisons en Genèse 1, verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. » En conformité à cette loi, un grain de riz ne peut produire que du riz. On ne sème pas du riz pour récolter des pommes de terre ou des bananes. Un grain de blé, quel que soit le pays où on le sème, ne peut pas produire du maïs. Semez du blé et vous récolterez du blé. Faisons l'application de ce principe aux choses spirituelles. En expliquant la parabole du semeur, en Luc 8, verset 11, Jésus dit, « La semence, c'est la parole de Dieu. » L'apôtre Pierre emprunte la même comparaison en 1 Pierre 1, versets 23 à 25, où il insiste sur le fait que cette semence, qui est la parole de Dieu, sera toujours vivante et efficace. Il dit, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Lorsque cette semence a été semée au premier siècle, qu'est-ce qu'elle a produit? De simples chrétiens et l'Église que nous voyons décrite dans le Nouveau Testament. Puisqu'une semence produit toujours selon son espèce, il est sûr que la même semence, s'il est prêché aujourd'hui, produira la même Église. Non pas une église distincte de celle que Jésus a bâtie. Les églises qui résulteront de cette prédication ne seront pas de nouvelles dénominations, des sectes ou des églises d'origine américaine, européenne ou africaine. Elles seront des assemblées locales de la seule église que Jésus a fondée. Commencer une assemblée chez soi ne veut pas dire créer une nouvelle dénomination, au moins pas si l'on respecte le modèle contenu dans la parole de Dieu.
Voilà beauté d'un court été, s'en va partout foisonne, les beaux épis de blé remplis, allons que l'on moissonne. Quand sont les champs, n'est-il pas temps, pas groupe, pas troupe, de moissonner, glaner, faner, il est temps de vanner.
Debout,
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 debout, debout, au moissonneur,
debout.
C'est l'appel du Seigneur debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout,
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 debout, et réponds, me voici. Trouve un terrain où le bon grain, le puissant évangile, pourra germer, oui, va semer en tout endroit fertile. Le sol produit l'herbe et le fruit, le donne, dans ta plein bras tu cueilleras des épis beaux et gras.
Debout,
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 debout, debout, au moissonneur, debout,
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 debout.
C'est l'appel du Seigneur debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout,
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 debout, et réponds, me voici.
C'est par l'Esprit que Jésus-Christ, le Seigneur, nous appelle. Va, messager, encourager le cœur le plus rebelle. À réfléchir, au repentir, ta grâce efface chaque péché le plus caché, que Christ soit donc prêché.
Debout,
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 debout, debout, au moissonneur, debout.
Debout,
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 debout, c'est l'appel du Seigneur, debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout,
debout,
debout.